Bonsoir. C'est le moment poésie du mois. Vous écoutez D'assonances en dissonance, une émission réalisée par Béatrice Maché. Mon invité ce soir est Jean-Luc Hirondel, à la fois auteur, diseur, chanteur, organisateur de scènes reggae. Bref, nous allons découvrir tout cela au cours de cette émission. Jean-Luc, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Pour vous présenter, je dirais que vous êtes né en 1959, que vous avez grandi entre la Côte d'Azur et les Alpes, que vous avez exercé le métier d'instituteur, mais dans de très lointaines écoles, comme Tripoli en Libye durant 8 ans, à Kampala en Ouganda pendant 5 ans, à l'île de la Réunion pour 5 autres années encore. Et depuis 20 ans, vous êtes de nouveau en Provence. Et vous y êtes très actif, puisque vous avez collaboré avec Radio Zinzine, mais aussi en tant qu'élu, puisque vous avez été adjoint à la culture à Pérols en Provence durant 7 ans, avant de l'être au tourisme, lors du mandat suivant. Et pendant toutes ces années, vous avez vécu dans l'ambiance de spectacle, soit que vous les montiez, soit que vous les accueilliez, soit que vous montiez sur scène, tout simplement. Alors on parlera de cette expérience, bien entendu, soit comme auteur, soit comme scénariste, et dire aussi qu'avec Bird and Lion, une petite maison d'édition, vous avez publié un roman jeunesse, puis 2 recueils de poésie. Vous avez également publié un roman chez Bénévent en 2003, Vagues à l'arme. Vous êtes également conteur, vous aimez partager ce qui constitue l'univers culturel de peuples plus ou moins lointains. Et ma première question, c'est: comment vous est venue cette envie de voyage, l'envie de travailler sur d'autres continents, et pourquoi instituteur ?
Eh bien, je pense que instituteur, c'est la vie qui a décidé pour moi. C'est que je me suis retrouvé à choisir à un moment. À l'époque, c'était les seules études qu'on pouvait faire qui étaient payées, prises en charge. Donc, je me suis retrouvé instituteur par hasard. Et j'ai adoré ça tout de suite. Deuxième hasard, c'est que à la place de faire le service militaire, j'ai trouvé que la coopération était un beau moyen de représenter le pays à l'étranger. Je me suis donc retrouvé en école française, donc vous l'avez dit, en Libye. Je me suis retrouvé en Ouganda ensuite. Et c'est cette passion pour l'enseignement, pour le partage surtout, qui fait que à partir du moment où on est dans un pays étranger, on est obligé de s'intéresser aux cultures locales et aux cultures voisines. Si la Libye est un grand pays, il y avait très peu d'habitants et il y avait très peu, en fin de compte, de cultures différentes. Il y avait la culture berbère et puis il y avait la culture, on va dire, des envahisseurs italiens et principalement. Donc c'était très intéressant de voir ce qu'il en était et de partager. À partir du moment où on est né dans l'éducation nationale, en école primaire, hein, maternelle et primaire, tout ce qui est langage oral, tout ce qui est tradition, conte, ce sont des choses qui interpelle les enfants et qu'on a plaisir à partager. Donc j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir déjà quand j'étais en Libye, lorsque je me suis retrouvé en Ouganda avec une richesse au niveau des traditions, avec des modes de vie totalement différents, ben j'avoue que j'ai adoré. Et la dernière chose, c'est la Réunion, se retrouver sur le territoire français, mais d'être avec tellement de culture dans un si petit endroit, c'était magnifique.
Alors, dans quel milieu avez-vous grandi et quelle place la poésie a-t-elle tenue dans votre vie d'enfant ou même d'adolescent ?
J'ai été dans un milieu favorisé. Mes parents étaient dans l'hôtellerie et je suis né à New York. Je suis arrivé en France quand j'étais bébé. J'avais 6 mois. Je me suis retrouvé dans un hôtel à Fréjus-Plage l'été. L'hiver, c'était un autre hôtel à Courchevel ou à l'Alpe d'Huez. Donc, c'était un milieu enrichissant. Pas spécialement au niveau de la littérature, mais j'ai eu une mère qui était passionnée par les cultures étrangères. Et je pense que la première fois que j'ai entendu parler d'Alexandra Davenil, je devais avoir 12 ans dans ces eaux-là. Et dès que j'ai commencé à lire, eh bien, j'ai lu d'abord les classiques, on va dire Fenimore Cooper. Moi, Bas de cuir a été une de mes références. Plus petit, je crois que c'était Pif le Chien, parce que dans Pif le Chien, il y avait Loup Noir, qui était un personnage amérindien, qui était superbe, je trouve. Mais il y avait aussi Docteur Justice, il y avait aussi Corto Maltese. Et c'est tout ça qui m'a éveillé, plus la petite chose, Eh bien, il y a des gens qui s'occupaient de moi, mes parents étant dans l'hôtellerie, donc il y avait toujours des gens pour me garder. Et pour garder un enfant, à l'époque, j'avais des tontons, tatis qui m'emmenaient au ciné. Et j'en avais un qui m'a amené voir tous les westerns qui sortaient à l'époque, d'où une passion qui est venue de là. Alors, plus une passion pour ailleurs que pour la poésie, mais la poésie est arrivée par l'école. Le Dormeur du Val, je le connais depuis que j'ai fait le CM2 et je crois que j'ai jamais oublié. C'est voilà, ça fait partie de ces quelques textes intemporels. En CM2, impossible de le comprendre, mais je l'ai récité. On va dire bêtement, et maintenant non, je le vis, c'est différent.
Alors, je vais vous demander de lire un de vos textes pour que les auditeurs commencent à avoir dans l'oreille un petit peu votre univers.
Les circonstances font que l'époque me permet de mettre en avant un texte que j'ai écrit il y a une quinzaine d'années et qui s'appelle Amour à mur. Une petite fille triste marche le long d'un mur. Ses doigts fins et fragiles courent sur le béton gris, dessinent en arabesques écarlates des mots aigris. Soudain, elle s'arrête, lève la tête, cherche une ouverture. Mais elle a beau se hisser sur la frêle pointe de ses pieds, tordre infiniment son cou en tous sens, à se l'arracher. Elle ne distingue aucune porte de débouché, juste un ciel bleu profond, des nuages estropiés. Hier, il n'y avait rien. Rien que la vie en plein écran comme dans un vieux film de guerre manichéen. Aujourd'hui ne subsiste que l'espace d'un regard cyclopéen, soumis aux prunelles désespérées des derniers migrants. S'appelle-t-elle Yasmina, Khalida ou Fatima? Sait-elle seulement qu'un jour elle reçut son nom offert par ses pères en souvenir des fiers compagnons fusillés pour une vaine intifada? À présent, son champ de cailloux lui enseigne l'histoire d'un passé éternellement recomposé à chaque génération. L'histoire d'un peuple qui cherche une terre à sa nation, espérant, à chaque bonne nouvelle, l'appel du grand soir. Tandis qu'elle, Fatima, Yasmina ou Khalida, elle veut simplement se faufiler de l'autre côté et, avec cette enfant juive, parler encore de sororité. Mais le mur ne laisse plus passer que les balles des soldats.
On a presque envie de faire une minute de silence pour Gaza. On est à la radio, alors on va pas se le permettre, mais le cœur y est. Je ne sais pas si nos auditeurs savent ce qu'est le dub poetry, mais vous allez nous l'expliquer, Jean-Luc Hirondelle. De quoi s'agit-il et qu'est-ce que vous proposez?
La dub poetry, je vais faire un petit peu d'histoire. Dans les années 70, il se trouve que un poète qui à l'époque était beaucoup plus révolutionnaire que poète, il s'appelle Oko-Onwara, est emprisonné parce qu'il a voulu faire la révolution et évidemment, il s'est pris 15 ans de prison. Bon, il est en prison, il est en train de il a la prison accueille un groupe qui s'appelle Light of Saba des musiciens jamaïcains qui font de la musique uniquement, ils n'ont pas de chanteur. Et ils viennent jouer en prison et Oko-Onwara leur explique qu'il a écrit des textes et qu'il aimerait bien les interpréter sur leur musique. Et c'est ce qui va se passer. Il va lire ses textes sur la musique de Light of Saba et il va enclencher le début de la dub poetry. La dub poetry, le dub, c'est un peu l'électronique du reggae. C'est des manipulations au niveau des effets sonores, les échos, les faders, tout ce qu'on peut mettre dans la musique. Et en ce qui concerne Oko-Onwara, je ne sais pas si c'est vraiment cette étincelle-là qui fait naître la dub poetry, mais c'est un genre qui va prendre racine de l'autre côté de la mer, au Royaume-Uni, j'allais dire en Angleterre, ouais, je crois que c'est en Angleterre, mais avec Lynton Kwesi Johnson, qui lui va écrire des textes qui sont très sociaux, parce que la dub poetry va apporter cet engagement des gens qui vont raconter leur histoire, qui vont raconter l'histoire de ce qui les entoure, en gardant vraiment un lien au départ sur la société et sur le sociétal. Lynton Kwesi Johnson, ses parents sont arrivés en Angleterre parce qu'on leur a dit en 62, vous pouvez être soit Jamaïcain, soit vous pouvez avoir un passeport britannique. Ils ont choisi le passeport britannique et ils ont eu tous les inconvénients qui sont liés à ça. Et ça, on le trouve dans la dub poetry de manière générale. C'est une poésie qui est engagée et qui veut faire partager des choses. Parallèlement, il y a le reggae. Le reggae, c'est Bob Marley avec les messages de paix et d'amour universel qui sont très importants. Donc, on va retrouver dans la dub poetry aussi. Il y a eu des femmes dub poètes. Il y avait ce spoken word dont on parlait déjà aux États-Unis. Moi, je sais que j'ai un morceau qui est joué par Jimi Hendrix et c'est Fontaine, quelque chose qui pose sa voix dessus. C'était Jimi Hendrix, quoi. Il est mort en 71. Ça veut dire que c'est plus ancien que ça. Ça a été enregistré. Les gens sont attendus à ce que ça marche. Donc, je disais, il y a Muta Baruka en Jamaïque qui va utiliser la dub poetry pour parler de la société. Aussi bien un super texte qui remonte l'histoire jusqu'à l'esclavage, ça s'appelle 10 poèmes par exemple, que des textes sur l'écologie, que des sujets beaucoup plus variés, l'émancipation de la femme, et puis on va retrouver le message du reggae, un message d'amour universel, un message de paix. On va laisser tomber les conflits comme la Jamaïque en a connu, voilà. Moi je suis arrivé là, mais encore une fois, par hasard, je pense qu'il y a plein de hasards ou par quelque chose qui a éclairé ces hasards. En tout cas, j'écris un recueil qui s'appelle Intercontinental. Je ne sais pas comment mettre en avant les poèmes. Je ne connais pas les histoires de lecture. Je ne sais pas que ça existe, que c'est aussi développé que ça. Donc, on est en 2010 dans ces eaux-là. Et je me dis, ah, tiens, je présenterai bien avec un DJ qui passe des musiques du monde, puisque Intercontinental, c'est les musiques du monde. Le DJ que j'aurais aimé avoir travaillé avec Chinese Man, c'était pas un des DJ de Chinese Man, hein, il travaillait dans l'équipe de Chinese Man. Mais lui me dit, non, il part en tournée. Il me dit, tiens, là, il y a trois jeunes qui ont un sound system, vois avec eux. J'ai regardé les jeunes, ils mettaient un 45 tours, un 7 pouces. Ils retournaient le 7 pouces et il n'y avait plus la voix. Il y avait simplement la musique derrière. Donc on a fait une résidence, on a Pérol, on a été en résidence pendant 3 jours. Eux sélectionnaient des vinyles. Moi, je posais la voix, je testais les textes. Et la dub poetry telle que je la fais à l'heure actuelle est partie de ça. Du fait de vouloir mettre en avant les textes, de vouloir leur associer une musique. Et ça a été une expérience qui s'est appelée lecture au pied du mur, puisque le mur, c'était le sound system lui-même.
Et comme illustration, nous allons justement écouter un enregistrement. Voici Ya Rasta, enregistré à Pérol en Provence au mois de juin dernier. Et je vais demander aux auditeurs de bien faire attention aux paroles, car elles racontent ce qui s'est passé sur le continent américain dès la fin du XVe siècle, lorsque les royaumes européens ont lancé leur politique de conquête et de colonisation.
Chercheurs d'or, conquérants chrétiens d'une Amérique improbable, déflorée par les vaisseaux des conquistadors. Des épidémies en canot impitoyable, prodiguées à l'excès au peuple versicolore, puis peupliées la nature inexpugnable, plutôt que l'unique dieu d'un clergé d'import-export. Pas coupable, mais responsable de rien. Amérindienne, rien d'autre que mon soutien, diffusé en boucle dans l'arène des Sound Systems. Thank you.
Vous venez d'entendre « Ya Rasta », écrit et dit par Jean-Luc Hirondel, accompagné d'un groupe de musiciens que vous allez peut-être nommer, Jean-Luc.
On s'appelle Words in Dub, W-I-D. Ben Bass, qui lui est aux machines, à la fois la boîte à rythme, à la fois le sampler, et qui joue aussi de la basse. On a un guitariste américain, états-unien, qui joue de la guitare. On a un percussionniste qui est le seul parmi nous à être allé plusieurs fois en Jamaïque. Et enfin, on a un flûtiste, harmoniciste et mélodica aussi. Le groupe donne la possibilité en live que les musiciens prennent leur temps pour jouer. Donc les paroles sont vraiment estompées par rapport à ce que je fais habituellement, comme je peux le faire quand je suis tout seul. Là, on laisse beaucoup plus d'espace à la musique. On n'est pas loin d'une ambiance de transe. Parce que on essaye d'amener les gens en voyage, donc c'est le but, hein, c'est de ce tour de chant, et les amener en voyage à la fois par la musique, en premier lieu par la musique, et que les mots les portent eux aussi, que les mots portent la musique, voilà.
Comment en êtes-vous venu à connaître et à dénoncer ces massacres et le génocide des Amérindiens ? Qu'est-ce qui vous a sensibilisé à ces diverses civilisations?
L'enfance. Depuis tout petit, les westerns, la seule chose que je me rappelle, parce que je l'ai cherché pendant longtemps, je me rappelais d'un film qui parlait du fils de Cochise, c'est Taza, le fils de Cochise. Quand j'ai repris le film, bien des années plus tard, parce que je l'ai trouvé il y a une quinzaine, une vingtaine d'années, le DVD, j'ai trouvé quand même c'était marrant à l'époque. J'étais passionné par toutes les tribus, avec quand même une grosse préférence pour les Apaches et pour Geronimo et Cochise d'ailleurs. Mais quand j'ai vu les acteurs, j'ai dit ah c'est marrant, c'est pas des Amérindiens, voilà. Mais donc ça m'a sensibilisé très tôt. J'adore les Amérindiens pour leur culture, mais ça, je l'ai découvert beaucoup plus tard. Hein. Je parlais tout à l'heure de Pif le Chien, oui, j'ai toujours adoré Loup Noir, je trouvais que c'était... qu'il y avait de... Maintenant, je peux le dire qu'il y avait de la philosophie là-dedans, d'ailleurs, comme dans Corto Maltese, hein, c'est pareil. Mais c'était l'histoire des discriminations, des gens qu'on laisse de côté, ou des gens qu'on rejette parce qu'ils sont différents. Et ça m'a toujours touché, ça me touche toujours beaucoup. Et quant à écrire Ya Rasta, c'est parce qu'il y a eu le mouvement zapatiste et parce que je suis persuadé que ce qu'a lancé à un moment le subcommandante Marcos, ça a été quelque chose de fort dont on ne saisit pas totalement l'impact qu'il peut avoir. Mais il a éveillé, je pense qu'il a éveillé beaucoup de conscience. Je viens de lire Neige Simo sur la réalidad. Et voilà, c'est un livre qui vient de sortir, mais qui reprend, moi je crois que j'ai tous les bouquins de Marcos, enfin ceux qui ont été traduits en français, et je trouve que c'est quelque chose de primordial de se dire qu'il y a d'autres voix qui existent dans le monde, et que ces voix-là, elles ont quelque chose à nous apprendre. C'est ce qui fait que je m'intéresse à ces populations, et c'est ce qui fait que Ya Rasta n'est pas seulement concerné... par ce qui se passe sur les Amériques, mais c'est vraiment, j'allais dire, universel. Je suis allé en Norvège, je trouve que les Samis ont une vie qui est particulièrement intéressante parce qu'ils sont totalement intégrés dans le monde actuel, mais ils ont su garder leurs attaches à eux, qui les amènent avec les rennes, qui les amènent à retrouver à certains moments, à se retrouver eux-mêmes. On parle beaucoup de ça en psychologie, philosophie, hein, se retrouver soi-même, mais eux, ils font de manière naturelle. Ça fait partie de ce qu'on leur a enseigné, ça fait partie de ce qu'ils sont, et je pense que c'est la même chose sur les peuples des Amériques. Voilà.
Il y avait un accent mis sur une vie orientée vers le bien-être du collectif, tout en s'épanouissant personnellement. Et ça, c'est vrai que l'équilibre et la balance, il faut la trouver, et ils avaient su le faire. Un autre peuple génocidé, c'est le peuple tibétain, envahi par la Chine en 1950. Je rappelle les faits. L'intervention militaire chinoise au Tibet, connu également sous le nom d'invasion du Tibet, désigne l'envoi par la République populaire de Chine d'une force armée au Tibet en octobre 1950, pour reprendre le contrôle de ce territoire indépendant, de facto, depuis 1912. Cette opération militaire est appelée « Libération pacifique du Tibet » et, chers auditeurs, vous apprécierez l'ironie, par le gouvernement de la République populaire chinoise. Le terme « libération » désignant la reconquête de la Chine semi-colonisée et n'ayant rien de spécifique au Tibet. Elle est qualifiée d'invasion du Tibet par le gouvernement tibétain en exil et les États-Unis. Alors, question parallèle, pourquoi êtes-vous sensible à cette cause tibétaine? Et est-ce que vous vous sentez proche du bouddhisme?
Oui. Petit, je découvre, enfin jeune, quoi, je découvre Alexandra Davinel. Et franchement, lorsque je lis une parisienne à Lhasa, je suis emporté. J'ai été emporté par Frison Roche aussi, j'ai été emporté par des tas de lectures de ce style. Mais là, c'est un pays totalement inconnu. Ce sont des traditions totalement différentes qui me rappellent les Amérindiens de mon enfance. Et puis, au fur et à mesure des années, je vais m'intéresser beaucoup plus à l'aspect mystique, l'aspect philosophique et l'aspect religieux du Tibet. Parallèlement à ça, depuis que j'ai 17 ans, j'ai toujours des feuilles manuscrites où j'avais bien relevé énormément de mots en sanskrit, je pense, mais donc qui concernait le bouddhisme. C'est quelque chose qui m'a toujours passionné depuis l'enfance. J'étais dans une école catholique, s'éveiller à autre chose, ça me semblait quelque chose de très important. Et le bouddhisme a été, c'était à la fin des années 70, c'était la fin du mouvement hippie, et c'était toutes ces manières de penser qui étaient une élévation en soi. C'est-à-dire que, moi je me rappelle, J'ai grandi avec un bouquin de Michel Lancelot qui s'appelle « Je veux regarder Dieu en face » et c'était vraiment une ouverture sur toutes les spiritualités plus que sur la religion qui m'a guidé. Donc effectivement, je me retrouve beaucoup dans le Tibet.
Alors on va écouter un extrait de « Une Tibétaine à Lhasa ». Donc c'est un morceau que vous jouez dans le même concert que Ya Rasta qu'on a écouté tout à l'heure. Cet enregistrement a été effectué en juin dernier. Une Tibétaine à Lhasa.
Om Mani Padme Hum, elle dessine ses rêves en mandala dans le sens d'un moulin à prière, tandis que s'entassent ses larmes comme des pierres gelées des stupas sur les sols de l'Himalaya. Sur les sols de l'Himalaya.
Vous venez d'entendre Jean-Luc Hirondelle interpréter son texte intitulé « Une Tibétaine à Lhasa », accompagné du groupe WID.
Words in Dub.
Words in Dub. Est-ce qu'il est important à vos yeux que les artistes s'engagent, qu'ils se montrent solidaires, qu'ils dénoncent les horreurs perpétrées en ce monde depuis des millénaires? Et si vous deviez définir le rôle d'un artiste, qu'il soit poète, musicien ou autre, que diriez-vous?
Eh bien, je dirais simplement que je suis allé voir Bruce Springsteen à Marseille au mois de mai, et que quand il y a 10 minutes sur un concert où il est en train de dénoncer ce qui se passe aux États-Unis, je trouve qu'il joue pleinement son rôle d'artiste. Et que les artistes, quels qu'ils soient, effectivement doivent s'engager, pas spécialement de manière violente. Les artistes sont là pour ouvrir les yeux et les oreilles, spécialement en musique. Mais une fois que les yeux sont ouverts, l'esprit et le cœur s'ouvrent eux aussi. Un artiste, c'est quelqu'un qui va faire éclore une fleur, comme un lotus qui va s'ouvrir, parce que il porte en lui ce qui va permettre aux pétales de s'ouvrir. Et puis après, on apprécie, les gens qui sont autour apprécient la fleur telle qu'elle est devenue. J'ai écrit un roman, vous l'avez signalé. Il est totalement engagé, ce roman. Les personnages sont, j'allais dire, sont à la limite entre le bien et le mal. Surtout le personnage principal, c'est un ancien révolutionnaire, c'était mon époque Che Guevara. C'est un ancien révolutionnaire qui a trouvé refuge à La Réunion et qui va trouver la rédemption en fréquentant, entre autres, un Rasta. Voilà, donc c'est même dans ce type d'écriture, c'est un engagement. Voilà, c'est ouais, moi je pense que les artistes doivent s'engager.
Parlez-nous à présent de votre expérience des ateliers d'écriture, et plus particulièrement de cette expérience vécue en mars 2020, au moment du confinement, moment où Laura Vasquez a lancé ses ateliers d'écriture en ligne. Alors je vais quand même ouvrir une parenthèse pour dire que Laura Vasquez est une jeune femme née en 1986 à Perpignan, très tôt remarquée dans le milieu de la poésie. Elle est poète, mais aussi romancière, et elle vit à Marseille. En 2023, elle a reçu le prix Goncourt de poésie pour l'ensemble de son œuvre. Donc vous voyez un petit peu l'impact qu'elle a eu. Elle a été pensionnaire de la Villa Médicis pendant l'année 2023. Voilà, parenthèse fermée, mes chers auditeurs, si vous en êtes curieux, allez voir ce que fait Laura Vasquez, ça vaut son pesant de cacahuètes. Que vous apporte cette pratique des ateliers? Est-ce que ça vous donne plus de confiance sur Lucky Rondel? Est-ce que cela vous apprend des choses? Est-ce que la dimension du collectif et du partage vous est importante?
Eh bien, c'est extraordinaire. Ces ateliers sont gratuits. Elle va donner une consigne. Les premiers temps, c'était beaucoup en vidéo. Elle donnait une consigne en vidéo partant sur un texte ou deux textes qu'elle avait sélectionnés. Et puis, elle va proposer une consigne d'écriture. Mais en même temps, elle va ouvrir une page Facebook des ateliers et sur de Laura Vasquez. Les gens qui ont écrit vont pouvoir proposer leur texte. C'est quelque chose de tout simple, on va dire que ça a l'air tellement ordinaire. Non, c'est extraordinaire, parce qu'on va se retrouver beaucoup d'écrivains en perspective, de gens qui nous cherchons dans l'écriture, qui ne savons pas exactement ce que nous allons produire, pourquoi nous allons écrire, ce que nous avons envie de dire. Moi, j'avoue que par les chansons, j'avais une option, une ouverture. Mais là, je vais découvrir d'autres gens qui écrivent. Et puis surtout, ce que je vais découvrir, c'est que sur la même consigne, on va être 20 ou 30 à écrire des choses totalement différentes. C'est extraordinaire. Et après, il y a une amitié qui va se créer entre les participants de ces ateliers. Et il y a des gens que je connais, que j'ai l'impression de connaître, parce que on se fait des petits commentaires, alors toujours dans la bienveillance. Il n'y a jamais de critiques négatives, il y a toujours des petites choses. Mais à force de les lire, on a l'impression de les connaître. Et quand ça m'est arrivé à Sète, ça m'est arrivé à Marseille, de tomber sur des gens qui me disent « Mais je te connais ?» Je dis « Ouais, pourquoi? J'ai joué quelque part, j'ai chanté. » Il me dit « Non, non, les ateliers. Ah oui, et toi tu es qui ?» Et moi je suis un tel. Ah, c'est vraiment génial. Au niveau de l'écriture, c'est très riche parce que on apprend énormément des autres. On apprend de ce qu'on lit chez les autres, on apprend de ce qu'on a produit soi-même.
Alors on va écouter un enregistrement que l'on peut retrouver sur le site En Miroir, qui propose une série documentaire sur l'écriture. Une série proposée par Benjamin Milazzo. Le texte donc est de vous, Jean-Luc Hirondelle, écrit lors de ces ateliers d'écriture de Laura Vasquez. Et la mise en voix est réalisée par Captive Édition avec la participation de la poète Céline Ferrand.
Enfantillage à la Blaise. Parfois la vie sourit au bord d'une rivière, quand la gourmandise piège un petit mammifère pour la gloire d'un tout jeune chasseur. Mais l'enfant ne veut pas le croire. Parfois le produit de sa chasse disparaît, avalé par le ventre gourmand de sa maman. Bien cuit, bien rôti la goutille. Mais l'enfant ne veut pas le croire. Parfois la maman est en peine d'avoir ôté le festin de la bouche de son petit indigène qui ne le sait pas. Mais l'enfant ne veut pas le croire. Alors la maman lui promet mots et merveilles, et comme toutes les mamans le conseille. Elle le console en lui promettant un fruit séché. Parfois les fruits mis à sécher sont emportés par la marabunta, une légion de fourmis. Le lent cheminement n'épargne aucun survivant, mais l'enfant ne veut pas le croire. Parfois la vie est dévastée par la multitude, minuscule, s'assemblant en un formidable fléau. Soudain les larmes s'écoulent sur ses joues. L'enfant veut bien le croire, simplement parce qu'il peut les boire.
Vous venez d'entendre un enregistrement du texte de Jean-Luc Hirondelle, mis en voix par Captive Édition avec la participation de la poète Céline Ferrand, donc qui prête sa voix. Et vous êtes bien sur Radio Côte d'Azur, vous écoutez D'assonances en dissonances, l'émission mensuelle consacrée à la poésie. Maintenant, on va passer à un livre dont le titre est Jim, Jimmy et moi. Et moi en un seul mot et au pluriel, du verbe émouvoir. Jim, c'est Jim Morrison. Jimmy, c'est Jimi Hendrix. Et vous comparez ces deux stars et symboles des années 70 à des chamans. Alors, j'aimerais que vous nous parliez un peu de ce livre, de ce que vous avez voulu partager, de ce que vous avez peut-être aussi voulu démêler en vous-même, réfléchir de vous-même en écrivant ce livre.
Jim, Jimmy et moi, c'est une sortie de burn-out. Un burn-out, hein, ça arrive, voilà, donc j'étais pas bien. Et je replonge dans le poète qui m'a fait aimer la poésie contemporaine, dans Jim Morrison. Parce qu'avant d'être le chanteur des Doors, moi je l'ai découvert très tardivement. J'ai écouté les Stones, j'ai écouté plein de groupes, enfin, toute l'époque hippie, je connais énormément de groupes. Neil Young qui est encore en train de chanter, super. Mais je n'avais jamais vraiment fait attention aux Doors. Et je tombe dans une librairie de Paris, boulevard Saint-Michel. Je tombe sur le premier, sur Seigneur et Nouvelle Créature, chez Bourgois. Je lis ça et je dis, mais c'est de la poésie, ça. J'ai vraiment été surpris. Après, je vais découvrir Bukowski. Après, je vais revenir. Même Kerouac, c'est beaucoup plus formel, par exemple. Je connaissais, mais c'est beaucoup plus formel. Donc, Jim Morrison, à ce moment-là, dans les années 80, c'est une énorme ouverture pour moi. Bref, quand on regarde un concert des Doors, il y a plein de moments qui sont des moments de pure transe, où c'est le pouvoir. Mais enfin, il en parle dans Seigneur et Nouvelle Créature. Il va amener le public à un point qui est pas loin du point de rupture, ce qui se passera à Miami, entre autres, etc. Voilà. Et donc, je suis pas bien, je fais une liste de tous les textes de Morrison que j'aime. Alors, petit retour en arrière. Quand j'écris Vagues à l'arme, mon roman publié en 2003, chaque tête de chapitre, c'est le début d'un poème de Jim Morrison. Il était déjà là, il a toujours été là, Morrison d'ailleurs, donc depuis le départ. Donc il y avait ça d'un côté. De l'autre côté, il y a Jimi Hendrix. Et Jimi Hendrix, plus je vieillis et plus je m'aperçois que là, je suis passé aussi à côté. J'aimais Hendrix, hein, il n'y avait pas de problème, mais j'aimais Woodstock, j'aimais la guitare qui joue l'hymne américain, tout ça, je trouvais ça super. Mais il avait que 27 ans, il faut quand même pas oublier, tous les deux meurent à 27 ans. Mais Hendrix, il avait une force de persuasion dans sa musique. Il faisait ressortir ce qu'il avait en lui de noir, c'est-à-dire d'origine africaine, de lointaine, et la partie aussi Cherokee qui était la sienne. Donc je dis, c'est pas la peine de partir à droite, à gauche. Donc je vais me centrer sur ces deux-là. Morrison, j'avais des biographies, j'avais des bouquins, j'avais des livres de photos, j'avais tout. Je commence à faire la même chose pour Hendrix. Je lis. J'avais surtout écrit au départ, je crois qu'il y avait 60 pages de poèmes. Et je trouve un éditeur qui était une maison d'édition qui devait s'appeler À la poursuite des mots et qui ne verra jamais le jour, qui s'est arrêté mort-né, comme malheureusement. C'est un projet de trois étudiants qui avaient fait leurs études de lettres sur le livre, autour de la carrière du livre. Eux m'ont lu, m'ont fait des retours, m'ont demandé de faire des corrections. Et puis surtout, ils m'ont dit que 60 pages, ça faisait pas beaucoup. Et que franchement, si on voulait avoir la CNL, les aides, il fallait faire un peu plus. Donc ils m'ont dit, est-ce que tu pourrais pas, vous pourriez pas, faire un Jim, Jimmy pour les nuls? Je dis, pas de problème, ouais, je vais essayer. Et puis là, elle est venue l'idée. Donc le livre Jim, Jimmy et moi, c'est un livre qui se lit en miroir, parce qu'il y a la page de gauche, c'est un poème, la page de droite, c'est un doc, c'est une anecdote, soit sur les Doors, soit sur Jimi Hendrix, soit sur les années 70, soit sur Janis Joplin par exemple, et ainsi de suite. Et on peut, c'est un bouquin qu'on prend comme on veut. On peut l'ouvrir à n'importe quelle page. On peut lire les poèmes, on peut lire les textes. Il n'y a pas du tout d'ordre chronologique. J'allais dire, c'est des explosions, des petites explosions, des petites étincelles qui sont offertes ou d'un côté ou de l'autre. Alors, les poèmes, je les réécrirai pas tels quels à l'heure actuelle, parce que ça commence à être vieux, Jimmy et moi. Le texte à côté, ouais, il me plaît bien. Il y a pas de problème. Il y a beaucoup de poésie aussi dans le texte. Il y a quelques trouvailles qui m'ont beaucoup plu. Et puis au fur et à mesure que je l'écrivais, que je relisais des bios sur Jim Morrison, que je relisais des bios sur Hendrix, que je lisais plutôt sur Hendrix, mais je me suis aperçu qu'il y avait quelque chose qu'ils avaient tous les deux, qu'ils avaient cet aspect chamanique. Comme en même temps, pour mon burn-out, j'étais soigné par l'hypnose et par quelqu'un qui a écrit, le docteur Vigneron, qui a écrit Transmédecine de l'âme, où effectivement tout ceci se rejoignait. Maintenant, dire que les deux étaient chamans, non, évidemment non. On est chaman, ils auraient vécu plus longtemps s'ils l'avaient vraiment été. Mais ce qu'ils ont partagé, c'est certainement ce qu'on doit pouvoir découvrir dans certaines civilisations où à un moment, on amène le public à un tel point qu'il oublie l'endroit où il est, qu'il oublie ce qu'il y a autour de lui et qu'il rentre dans le vecteur qu'est la musique. Et en ce qui concerne les Doors, dans les paroles, voilà. Ceci étant, il faut pas négliger les paroles d'Hendrix. Il y en a quelques-unes qui sont pas mal non plus, hein, qui sont bien, bien éclairantes.
À la source du bonheur. C'est, si je ne me trompe, le titre d'un spectacle conté que vous avez monté et joué. Pouvez-vous donc nous dire ce qui est à la source du bonheur, Jean-Luc Hirondelle ? Et quel plaisir ou quel engagement prenez-vous en vous adressant à des enfants ? Est-ce une façon aussi de rester instituteur ?
C'est ce que j'allais dire. Je l'ai fait toute ma vie. Donc, à la source du bonheur, je l'écris une fois que je suis retraité. Donc, partager quelque chose. J'ai déjà une première petite fille qui était née, pour laquelle j'avais écrit des petits poèmes très courts et qui étaient sympathiques. Mais là, j'ai rencontré une illustratrice, Mylène Tarjiro, à qui j'ai demandé. J'ai dit, écoute, moi j'ai une histoire. Est-ce que toi tu verrais des illustrations ? Elle m'a dit oui. Et on est parti. Au départ, il y avait un projet sur l'eau à Aix-en-Provence. Donc, d'ailleurs, cette année, il y a une biennale où l'eau est aussi à l'honneur. Je réfléchis au spectacle. Je dis, moi, je veux bien faire quelque chose sur l'eau, mais je vais parler du deuil. Et la personne de la bibliothèque pour laquelle j'allais produire le spectacle, le créer et l'écrire, me dit, oh, le deuil avec les enfants. Je dis, bah oui. On n'en parle jamais, il y a quelques livres dans les albums pour enfants, mais on n'en parle jamais. Mais moi, le deuil, il va être différent, parce qu'il faut que ça fasse sourire, il faut qu'il y ait de l'imaginaire, il faut emmener les enfants. Et donc, je les ai emmenés au cours de l'eau. Ça a été très simple au départ. La première fois, c'est un escabeau. Le haut de l'escabeau, c'est la source. En bas de l'escabeau, il y a la mer. Sur chaque échelle de l'escabeau, il y a des petits animaux qu'on trouve d'ailleurs dans les magasins de jouets, dans les animaleries. Voilà, chaque fois j'achetais un animal, alors j'en avais acheté pour faire les comptes, en disant tiens, quand je vais faire les comptes avec les enfants, je vais leur montrer les animaux. Et là, je regroupe tous ces animaux et chaque fois je trouve pour chaque animal un conte, une chanson. Et puis l'histoire, c'est que la biche a perdu son cerf. Elle va à la source du bonheur, comme font tous les animaux, ça vous le savez bien vous-même. Elle laisse tomber une larme, mais dans cette larme, elle enferme l'esprit de son cerf qui a été tué. Et cette larme va se transformer en goutte. Et elle va devenir larme, souvenir de cerf. Et elle va parcourir tout le chemin de la rivière, depuis la source jusqu'à la mer, avec des tas de rencontres, avec des moments drôles, avec des moments très drôles. Je pense à un coq marseillais. Et ben à la fin, la goutte, elle va faire comme toute goutte d'eau, c'est-à-dire que le soleil va la prendre, va l'emmener en l'air, et puis avec la pluie, elle va revenir voir la biche. Voilà, c'était le cycle d'un renouvellement sans cesse. Une chose très importante, c'est les ancêtres. On va le trouver, moi, en Afrique, ça m'est vraiment apparu clairement, et je m'aperçois que tous les peuples premiers ont un énorme attachement aux ancêtres et que nous, on l'a pas. Et que ce spectacle, c'est vraiment le spectacle d'un grand-père qui veut laisser quelque chose à ses petits-enfants et qui veut surtout leur dire que on part jamais vraiment. On est toujours à un moment, on revient, on est là, et qu'on pleure, c'est normal, ça fait partie des choses normales. Mais qu'à un moment, l'avenir amène un rayon de soleil. C'est un peu ça l'histoire.
Vous étiez présent au Festival des Voix Vives de Méditerranée qui se déroule à Sète. Il s'agit du plus gros festival de poésie organisé en France et il se déroule chaque année à la fin du mois de juillet. Dites-nous un peu quelles découvertes vous y avez faites. Et d'après vous, est-ce que les rencontres peuvent servir d'inspiration, d'émulation pour les auteurs comme pour le public ?
Les rencontres et les écoutes surtout, c'est un grand moment de découverte. Alors cette année, j'ai été particulièrement sensible à la poésie venue de Belgique avec Aurélien Dony, avec Laurence Viel, parce qu'il y a énormément d'humour. J'adore Verhagen, mais là, je trouve c'est une fraîcheur, je trouve c'est un rythme. Et puis, il y avait Captain Alexandre, qui est originaire d'un pays africain, et qui portait sa voix comme un slam. Alors ça, c'est vraiment les moments forts de cette année. C'est un superbe festival que tous les gens qui s'intéressent à la poésie devraient y aller au moins une fois et se dire qu'il faut y rester 2-3 jours parce qu'il se passe plein de choses à plein d'endroits différents. Pour la première fois cette année, j'ai eu l'occasion de monter en barque. Et c'était avec Stéphanie Lemonnier, qui est une poétesse marseillaise. Et j'avoue que ça a été 1h30 de bonheur. Alors, il y a des rameurs qui rament. Et puis, il y a la poétesse qui, à un moment, va déclamer, va scander. Et on écoute et on partage. On est là, entouré par l'eau, par ce qu'il y a autour. C'est la ville, on est en pleine ville. C'est vraiment super. J'ai raté deux moments qui doivent être très beaux. C'est celui de lecture à minuit. Ça faisait très tard, et à 5h du matin, ça faisait très tôt. Et puis après, ben, y a toutes les propositions des éditeurs qui sont là. La plupart des poétesses et poètes sont souvent à l'écoute, sont toujours prêts à échanger un mot, à parler, à faire vivre surtout. Moi, j'étais surpris de voir des jeunes de 15 à 20 ans venir demander ce que c'est que de la poésie, venir voir les livres, feuilleter, prendre le temps d'échanger, et puis prendre le temps d'écouter, quoi. C'est très beau. Non, c'est vraiment un beau festival.
Y a-t-il des auteurs contemporains, ou pas d'ailleurs, dont vous vous sentez particulièrement proche ? Et pourquoi ?
Non contemporain, je me sens très proche de Blaise Cendrars pour le côté baroudeur, etc. Pour la force, pour le pouvoir qu'elle dégage, Laura Vasquez, parce que ses textes sont des pics. Ça éveille quelque chose. J'adore Frédérique Soumagne. J'ai eu l'occasion de travailler avec elle. Elle a suivi un de mes deux recueils d'ailleurs. Frédérique, quand on la voit sur scène, quand on lit son livre, que ce soit Cui-Cui ou la grande liste des gens que j'ai rencontrés une fois dans ma vie, on se dit, mais elle nous amène la poésie sur des horizons qu'on n'aurait jamais imaginés. Mais je reste quand même particulièrement sensible ou attaché ou de manière affective à des poésies d'ailleurs. Je pense à Alaa Mohammad ou à la poésie syrienne. Je pense à toute la poésie amérindienne parce que je crois que je commence à en avoir. Il y a des gens qui me parlent énormément. Danser.
Résister en dansant de Kim Blazer, cette poète Anishinaabe.
Voilà, résister en dansant. Ça, c'est une philosophie de vie. Ça allie à la fois le fait de dire non, nous ne sommes pas soumis, et le fait de dire nous bougeons, nous vivons, nous sommes vivants. Et ça, c'est ce genre de poésie contemporaine que j'adore. Il y en a d'autres, hein, je pourrais parler de Joy Harjo.
Joy Harjo, poétesse Muscogee, Creek.
Je m'aperçois que j'ai pas beaucoup d'hommes dans ma liste de poètes, mais d'un autre côté, j'écoute aussi tellement de musique. Il y a beaucoup de chanteurs, pas spécialement poètes, dont je me sens proche. Je pense à Lavilliers, Bernard Lavilliers, évidemment.
Alors, si vous ne connaissez pas, je vais vous citer un homme qu'il faut absolument aller écouter ou regarder sur Internet. C'est un Kanak et il s'appelle Paul Wamo.
Et oui, et c'est un copain de Marien Guillet, et Marien m'en a parlé, et Paul, on est devenu amis sur Facebook il y a pas longtemps. Il se trouve que j'ai entendu un enregistrement et un disque qu'il a fait, produit, enfin, et oui, puisqu'on parle de Paul Wamo, moi j'aime beaucoup Imma Sango aussi, que j'ai rencontré, j'ai eu l'occasion de rencontrer, Laura Lutard, pareil.
Et après, il y a Jean d'Amérique aussi,
Mais comment ai-je oublié Jean d'Amérique ? Jean d'Amérique, je l'ai vu au Chambon-sur-Lignon, alors qu'il faisait la présentation du livre donc chez Chaîne l'éditeur pour les enfants. C'était superbe. Et Jean d'Amérique, j'ai été regarder toutes ses vidéos. Jean d'Amérique, il est poète, mais il a aussi écrit « Soleil à coudre ». Et là, ça a été une sacrée claque. Autant que Thomas Vineau pour « Le camp des autres », sur la manière dont l'un et l'autre, ce sont deux choses totalement différentes, mais dont ils écrivent, ils ont impulsé, dans ma tête en tout cas, ils m'ont impulsé une envie de faire différemment.
Dans cette émission, il y a une constante. Je demande à mes invités de partager un morceau de musique, une chanson, quelque chose qui a une signification spéciale pour eux. Alors, quel serait votre choix, Jean-Luc Hirondel, et pourquoi ce choix ?
Eh bien, je vais rester dans le même registre et je vais dire Chabouzé. Voilà, Chabouzé, c'est un afro-américain qui a l'air d'être grand, qui a des énormes dreadlocks et qui fait de la country. Et là, franchement, je sais bien que Beyoncé s'est mis à la country, a fait un album entier dans lequel il est, d'ailleurs, il figure. Mais de voir ce gars prendre une musique qui a été associé au blanc des États-Unis, c'est-à-dire avec tout ce que ça peut comporter, et se dire que ce gars-là amène de la joie, amène quelque chose, parce que malgré les douleurs et tout, il y a cette énergie, une énergie qui est là pour la danse, qui est là pour la fête. Résister en dansant, ça pourrait s'appliquer aussi à énormément d'Afro-Américains. C'est quelque chose qui est ce qu'on dit dans le sang, qui est dans l'hérédité, voilà, qui est dans les gènes. Donc Chabouzé, moi, sans problème, j'ai découvert ça il y a 7 années et je suis totalement fan. Bon, après, au niveau du contenu des chansons, ça parle plus de bars, ça parle plus de fêtes, etc. Mais moi, ça me fait bien marrer, donc j'assume.
Nous allons donc écouter une chanson de Chabouzé, qui figure sur l'album qui a pour titre « Where I've been isn't where I'm going ». Et le titre de la chanson, c'est « A Bar Song ». Et c'est le choix musical de mon invité, Jean-Luc Hirondel.
Baby born a Birkin, she's been telling me all night long. Gasoline and groceries, the list goes on and on. It's 9 to 5, ain't working. Why the hell do I work so hard? I can't worry about my problems, I can't take them when I'm gone. One, here comes the 2 to the 3 to the 4. Tell them bring another round, we need plenty more. Two-stepping on the table, she don't need a dance floor. Oh my, good lord. Someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jay Daniels got a history. There's a party downtown near Fifth Street. Everybody at the bar getting tipsy. Everybody at the bar. I've been boozy since I left. I ain't changing for a check. Tell my mind I ain't forget. Woke up drunk at 10 a.m. We gon' do this shit again. Tell your girl to bring a friend. Oh Lord. One, here comes the 2 to the 3 to the 4. Tell them bring another round. We need plenty more. Two stepping on the table. She don't need a dance floor. Oh my, good Lord. Someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jay Daniels got a history. There's a party downtown near Fifth Street. Everybody at the bar getting tipsy. Everybody at the bar getting tipsy. Everybody at the bar getting tipsy. One, here comes the 2 to the 3 to the 4. When it's last call and they kick us out the door. It's getting kinda late, but the ladies want some more. Oh my, good Lord. Someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jay Dale's got a history. There's a party downtown near Fifth Street. Everybody at the bar getting tipsy.
chanson interprétée par Chabouzi. Et c'était le choix musical de mon invité Jean-Luc Hirondel. Et je précise que ce Chabouzi est un artiste country américain, mais d'origine nigériane, et qu'il a tout juste 30 ans. Bon, on s'en va vers la fin de cette émission, Jean-Luc Hirondel. Donc, vous allez nous parler maintenant de vos projets. Sur quel texte travaillez-vous actuellement ?
Alors, en premier lieu, je travaille sur le spectacle de Dub Poetry avec les musiciens, parce qu'il faut continuer à développer ce genre. Y en a de plus en plus d'ailleurs, hein, de gens qui se mettent dans la dub poetry. Je vois dans le milieu reggae, ça commence à venir. Donc on va travailler là-dessus. Autrement, en tant que texte, je travaille sur un manuscrit qui s'appelle Le Cri du Blaireau et qui met deux destins en parallèle. C'est de la poésie, mais il y a elle, il y a lui. Elle arrive du Rwanda. Quand je dis elle arrive, non, elle fuit. Lui, il a vécu en France. Ça pourrait être n'importe où en Europe, d'ailleurs. Et c'est deux destins qui vont se retrouver à travers la poésie. Donc voilà, c'est le projet qui m'occupe maintenant. Et à plus long terme, j'espère partir aux États-Unis. Je préférerais partir quand Trump n'est plus là. J'aimerais bien aller en Arizona, sur la réserve Navajo. J'aimerais bien aller sur... Il y a au moins deux réserves Apache, il me semble, Apache.
Il y en a plusieurs que ça. Mais une des plus grandes, c'est San Carlos.
Ouais, bah oui, c'est là où il y a...
Et sinon, il y a la réserve des White Mountains aussi.
Voilà, j'aimerais bien aller là-bas pour écrire dans le contexte, parce que j'évoque, comme dans le poème, le texte que je vous ai lu tout à l'heure, j'évoque des espaces un peu comme Sandrard, dans lesquels j'ai pas franchement posé les pieds, mais j'ai tellement l'impression d'avoir posé ma tête et mon cœur que ça fait comme si j'avais été... Voilà, le projet à plus long terme, c'est ça. C'est de partir de l'autre côté de la mer... Et d'écrire non pas sur les Amérindiens, attention, je vais pas prendre la place, je vais pas faire d'appropriation culturelle, pas du tout, mais écrire dans l'ambiance.
Très bien. Eh bien, Jean-Luc Hirondel, il me reste à vous remercier chaleureusement d'avoir répondu à mes questions. Merci de nous avoir ouvert votre monde, votre univers entre poésie et musique. Vous l'avez souligné, dans un esprit de partage. Et comme vous avez pu l'entendre, chers auditeurs, en toute sincérité.
Eh bien, grand merci, Béatrice. C'était un très beau moment. Ça m'a fait bien plaisir de partager tout ça. Je vais terminer comme je termine chaque concert. Prenez soin des autres. Faites attention à vous. One love.
C'était D'assonances en dissonance, votre émission mensuelle de poésie. Je vous retrouve avec un nouvel invité le mois prochain. Et d'ici là, chers auditeurs, portez-vous bien. Au revoir.